Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 158e numéro de nos chemins d'histoire, le 38e de la 4e saison, et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Jérôme Kennedy, bonjour à vous.
Bonjour.
Jérôme Kennedy, vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire romaine de l'Université de Lille, et vous publiez chez Champvallon un ouvrage intitulé « Une Respublica impériale en mutation », penser et pratiquer le pouvoir personnel à Rome, de Sylla à Trajan. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur l'histoire de la Rome des premiers siècles avant et après Jésus-Christ, période qui voit une recomposition du politique entre continuité et rupture et sans forcément de linéarité, au risque même de la confusion, de l'incertitude ou de la contradiction. Alors, au cœur du sujet qui est le vôtre, il y a un parcours, Jérôme Kennedy, un cheminement, un passage, une transition. Vous l'expliquez dans vos premières pages, vous dites « Un système fondé sur une pratique collégiale de pouvoir autour d'un sénat et de magistrature, pour la plupart renouvelée chaque année sous le regard et avec l'onction du populus, a progressivement généré ou vu s'imposer à lui le recours durable à des formes de pouvoir personnel sans pour autant disparaître. Le but de cette enquête, c'est d'identifier, de reconstituer les différentes étapes qui ont rendu une telle évolution possible. Sans tabou et sans surtout, mais c'est toujours difficile pour l'historien, de perspective téléologique.
C'est-à-dire que les premiers siècles avant et premiers siècles de notre ère, c'est une période qui a été très étudié hein, dans l'historiographie depuis le 19e siècle. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à en retenir une marche finalement inéluctable vers le retour à un pouvoir personnel qui, au fond, nous a été inspiré par des sources très tardives, notamment des sources grecques. Et l'idée, c'était de déconstruire justement cette perception et de sortir de alors quelque chose qui est souvent un petit peu réconfortant, c'est-à-dire l'idée d'une époque avec plusieurs scansions clairement établies, différentes époques, différents moments, et d'essayer de voir que, comme pour aujourd'hui finalement, on a des contradictions, et d'essayer de remettre un petit peu de cette incertitude dans cette appréhension de la période.
Le refus du téléologique est très puissant dans votre ouvrage.
Quand on regarde effectivement l'ensemble de la période, on a une tendance globale, c'est-à-dire l'affirmation du pouvoir personnel sous des formes variées, certes. Mais dans le détail, rien n'indique, par exemple, au moment où, je sais pas, par exemple, Auguste s'impose en 31 avant notre ère après la bataille d'Actium, rien n'indique qu'il deviendra Augustus en 27, qu'il deviendra père de la patrie en 2 avant notre ère, etc. C'est-à-dire que les formes du pouvoir personnel, elles se construisent par des jeux de réflexion politique, philosophique, mais aussi beaucoup par la contingence. Et pour le coup, Auguste, c'est vraiment l'exemple type de quelqu'un qui a construit alors quelque chose qu'on voit comme un tout dès le départ, mais qui en fait se construit vraiment pierre après pierre. Il y a une donnée justement qu'on a longtemps mise de côté, mais qui est finalement la plus évidente, c'est-à-dire qu'entre le début du principat d'Auguste et la mort d'Auguste, il y a à peu près autant de temps qu'entre Sylla et la mort de César. Enfin, il y a un monde entre ces deux périodes. C'est ce qui, d'ailleurs, explique que le pouvoir augustien a pu se construire d'une manière finalement aussi fine, mais au bout de plusieurs décennies.
Ce livre qui paraît, c'est finalement le fruit d'une thèse, hein, que vous avez soutenue à l'Université de Lille sous la direction de Stéphane Benoît. Alors, évidemment, ça paraît, du point de vue extérieur, étonnant de s'atteler à quelque chose d'aussi fondamental, d'aussi structurant. D'où vous est venue cette idée et comment ça a été mis en œuvre, avec quelles difficultés, peut-être parce que vous vous attelez là à une espèce de monument historiographique, si j'ose dire.
Je dirais qu'il y a d'abord une part de hasard. Enfin, je suis arrivé à l'Université de Lille en 2007, en même temps que Stéphane Benoît. Ça a été pour le coup une vraie rencontre et c'était le moment où il travaillait sur la question de Rome, le prince et la cité. Donc justement avec une approche à la fois de la politique et du politique et une réflexion sur les mots et sur finalement la conceptualisation de la et du politique. Donc c'est parti de là, c'est-à-dire petit à petit ça a piqué mon intérêt et partant de là j'ai commencé à travailler donc avec Stéphane Benoît sur la notion de princeps qui nous pose encore beaucoup de problèmes aujourd'hui, de l'époque de Cicéron jusqu'au Julio-Claudien, l'idée de voir que derrière un mot qu'on emploie de manière usuelle, on a en fait une variété de faits politiques mais aussi d'imaginaires politiques qui ont été recouverts finalement par, par des évidences, par des définitions, des conceptions un petit peu toutes faites. Et une fois que ce travail a été terminé, bah justement l'objectif c'était d'approfondir et d'élargir un petit peu au-delà de la notion de princeps en se disant il y a peut-être quelque chose de plus systémique qu'on peut travailler à partir des mots, comment les mots donnent aussi une réalité politique, créent une consistance politique. Et on avait commencé à réfléchir autour d'abord de la République impériale, ensuite c'est devenu dans le livre La Respublica impériale. C'était une notion qui permettait à la fois d'intégrer les logiques des premiers siècles avant et de notre ère, d'essayer de recomposer la chronologie tout en réfléchissant sur les termes. Donc ça, c'était l'avantage. La difficulté, c'est que d'emblée, le fait de choisir République impériale pour travailler sur cette période, on avait une formulation très contemporaine, qu'on retrouve par exemple sous la plume de Raymond Aron, dans les années 70. Donc forcément, il y a un décalage qu'il fallait appréhender. Puisque l'idée, c'était de sortir de certaines apories ou certaines facilités liées aux termes République et Empire. Le risque, c'était qu'on tombe dans les mêmes travers en disant que République et Empire vont être remplacés pour cette période-là par République impériale. Ça a été une difficulté de trouver l'équilibre dans la définition du concept et surtout de poser cette définition en partant des sources. Évidemment, dans les sources, on ne trouve pas l'équivalent de Respublica impériale, ça n'existe pas, mais on a des équivalents dans la manière dont le rapport entre le pouvoir personnel et le fonctionnement politique global de la cité peut être défini.
Vous dites, en sa définition première, la res publica impériale renvoie à un principe, celui de l'équilibre, entre un pouvoir personnel difficilement contestable et l'organisation tout à fait traditionnelle d'une chose publique romaine fondée sur l'exercice de magistrature limitée dans le temps et l'entretien d'un ensemble complexe de liens de clientèle. Donc là, la notion, je pense, d'équilibre, et vous venez de le dire, hein, d'une certaine manière, est très importante dans l'ensemble de votre livre, d'ailleurs.
C'est une question d'équilibre. Par définition, un équilibre instable. Et les moments, justement, d'équilibre sont assez rares sur l'ensemble de la période. On a vraiment cette approche entre, d'un côté, l'émergence de formes variées de pouvoir personnel et de l'autre, l'idée d'un système qui continue à se définir comme collégial. Et donc forcément, on a une contradiction au sein d'un système qui progressivement change sans que d'apparence, quand on regarde d'extérieur, les termes restent les mêmes, certaines pratiques restent les mêmes. Donc cet équilibre, parfois, il peut être explicite, il peut être implicite, il peut être avoué, inavoué, et c'est ça justement une des difficultés de la période.
Alors évidemment, l'histoire que vous proposez, vous avez dit, s'inscrit dans un cadre chronologique qui est peut-être pas si facile à définir que cela. Vous dites d'ailleurs, vous appuyez pour réfléchir, penser cette périodisation, la périodisation qui vous conviendrait, vous appuyez sur les travaux d'Harriet Flower, autrice de Roman Republics en 2010, un ouvrage qui a marqué l'historiographie et qui explique que la République romaine est en fait plurielle et qu'il y a plusieurs républiques en quelque sorte qui se succèdent. Pour le point de départ, l'action de Sylla, donc au début du 1er siècle avant notre ère, constitue finalement le premier jalon pour l'étude de la relation entre pouvoir personnel et respublica. Pour le point de départ, c'était peut-être plus facile que pour le point d'arrivée. Finalement, vous terminez votre étude avec Trajan ou avec l'avènement de Trajan. C'est sans doute moins évident, y compris pour le lecteur, que le point de départ avec Sylla.
Forcément, dès qu'on délimite la chronologie, on s'approprie, on crée un cadre qui n'a pas pour objectif d'être une sorte de nouvelle doxa, hein, évidemment, mais voilà, c'est d'essayer de déterminer un cadre qu'on estime le plus pertinent. Ça a été l'objectif d'Harriet Flower, hein, vous l'aviez mentionné juste avant. C'est un ouvrage à la fois qui a été intéressant parce qu'il nous a montré que les concepts contemporains, république et puis évidemment empire, ce serait la même logique, sont des concepts qui nous ont amenés à totaliser et à schématiser notre perception de la chronologie. Évidemment, quand elle découpe le temps du début de la République jusqu'à ce qu'elle s'arrête au consulat de César en 60 avant notre ère de mémoire, elle propose 6 temps, 6 républiques, c'est-à-dire 6 fonctionnements politiques. Ça n'a pas vocation, j'irais, à remplacer dans les manuels d'histoire la République romaine. Hein. Mais c'est vraiment l'idée d'essayer d'apporter des nuances, de montrer des inflexions. Et là, l'objectif global, c'est en ça que ce livre m'a influencé, c'était celui-là. C'était de se dire, ben voilà, sur ce spectre chronologique des premiers avant et premiers de notre ère, concrètement, comment je peux m'approprier et définir ce cadre-là ? Alors, c'est vrai que dans le livre, l'impression qu'on peut avoir, c'est que le point de départ est plus simple à définir que le point d'arrivée. En fait, à l'origine, c'était beaucoup plus compliqué parce que au moment de la thèse, la définition d'abord du point de départ, donc là, ici, j'ai vraiment explicité, mais on a un certain nombre de sources un petit peu plus tardives, par exemple Appien, qui prennent comme point de départ la période gracchienne, Tiberius et Caius Gracchus, comme le point de départ de ce qu'on appelle les guerres civiles. Là, il y a tout un jeu de discussion, de confrontation des sources, pour aboutir au moment silanien, qui effectivement marque une inflexion dans le rapport au pouvoir personnel. Et dans le rapport aussi, peut-être surtout, dans la réception et la perception du pouvoir personnel à Rome. Mais à la lecture du corpus de sources, c'était pas si évident. Donc ça l'est encore moins pour le Terminus. Parce que le Terminus, donc là j'ai choisi donc Trajan, qui conclut un premier siècle de notre ère qui est vraiment un peu une sorte de laboratoire pour le pouvoir impérial, d'une certaine manière. Et l'une des difficultés, c'est que c'est vraiment au fur et à mesure de ce premier siècle de notre ère que commence et que tend à se définir ce pouvoir personnel. On a des inflexions à partir de Claude, à l'époque de Sénèque, entre Claude et Néron. Et finalement, Trajan, c'est un moment important parce que, je dirais, c'est une explicitation théorique d'éléments qui étaient sous-jacents auparavant, en notamment mettant en avant le titre officiel hein, que le Sénat attribue à Trajan, d'Optimus Princeps. Donc l'idée que le pouvoir s'approprie et explicite des grilles de lecture au fond beaucoup plus traditionnelles, héritées d'une pensée politique grecque, hellénistique, qui n'était pas au cœur de la démarche augustéenne, par exemple. Donc ça montre qu'on bascule dans autre chose, même si cette bascule, elle se fait évidemment avec un arrière-plan de plusieurs décennies.
Alors revenons évidemment sur votre méthodologie, les sources sur lesquelles vous appuyez, sur les débats historiographiques qui ont nourri la réflexion et la vôtre en particulier. Alors c'est intéressant parce que il y a eu énormément, si on regarde l'historiographie, de débats, de polémiques puissantes. Hein, on pense notamment à tous les débats qu'il y a pu y avoir sur la nature démocratique ou aristocratique de la République, hein, notamment les débats entre Fergus Miller, historien britannique écossais, mort en 2019, ou Carl Joachim Ulkeskamp, dont on a d'ailleurs une traduction d'un ouvrage, hein, traduction de Reconstruire une République, la Rome antique, qui est paru en 2008 dans sa traduction. Il y a tous les débats donc sur la nature de la République et puis sur l'organisation politique d'Auguste aussi, depuis Théodore Mommsen, en allant jusqu'à Ronald Syme, voilà, etc. Il faut avoir en tête tous ces débats pour construire, pour faire prospérer cette notion de res publica impériale. Et ces débats sont larges, puissants, vraiment, il faut le dire, Jérôme Kennedy.
Oui, ce concept de res publica impériale, évidemment, il s'inscrit pas en rupture avec toute une tradition historiographique. C'est-à-dire qu'il se nourrit de décennies, en fait, de siècles, finalement, de réflexions historiographiques. Il y a eu des débats qui sont extrêmement puissants, notamment, alors, le premier que vous avez évoqué à partir, on va dire, de la fin des années 90, sur la nature profonde de la République romaine. C'est-à-dire qu'il y a eu, pour schématiser, une opposition entre donc Fergus Miller qui, lui, avait l'idée de défendre, dans un premier temps, de manière radicale, mais sans doute aussi pour faire évoluer et faire réagir. C'est-à-dire que, je crois que dans la préface de son ouvrage 98 sur la foule à Rome dans le monde romain, il explique que ce qu'il propose, c'est finalement des pistes de débat. Il pose pas une nouvelle définition ferme, catégorique et définitive. Et lui, ce qu'il explique, c'est que cette République romaine, c'est une démocratie. Il a une expression, il dit au sens strict du terme. C'est-à-dire évidemment pas au sens contemporain du terme avec les élections comme point d'orgue d'un système démocratique. Là, c'est l'idée que avant même les élections, il y a tout un processus de débat, de discussion formelle, informelle, notamment à travers certaines réunions qu'on appelle les contiones. Donc on a tout cet argumentaire qu'il avait développé, et en réaction, il y a tout un pan de l'historiographie allemande, Karl-Joachim Holkerschkamp en particulier, qui, dans une lecture peut-être plus sociologique aussi, a expliqué, a démontré que ce système, en réalité, c'est un système de nature aristocratique qui est fondé sur une dynamique d'auto-reproduction des élites avec des taux de reproduction des élites très importants de plus de 80% au premier siècle avant notre ère, par exemple, pour les figures qui ont occupé notamment le consulat. Donc on a eu cette forte opposition. Aujourd'hui, on l'a un petit peu et même beaucoup dépassé, c'est-à-dire qu'en fait, plus qu'une opposition, on avait des éléments de relations qu'on pouvait créer entre ces deux approches. Ça a notamment, par exemple, été fait par Virginie Hollard quand elle a travaillé sur le rituel du vote, justement, en 2010, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc ça a été un moment vraiment très intense dans l'historiographie. Et puis, au-delà de ça, il y a tout un arrière-plan beaucoup plus ancien d'une succession d'efforts de théorisation du pouvoir impérial. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le débat sur la nature de la République et le débat sur la nature du pouvoir impérial. Donc finalement, quand on combine les deux, c'est une réflexion sur la nature de la Respublica, finalement. Et donc sur le pouvoir impérial, depuis Mommsen, on a eu un ensemble de théories. Mommsen a pu parler de diarchie, c'est-à-dire de partage du pouvoir entre l'empereur et le Sénat. Plus récemment, par exemple, Egon Flaig a développé le système, enfin le concept d'acceptance system, c'est-à-dire d'acceptation d'un pouvoir, du pouvoir impérial, et l'idée qu'on retrouve chez Paul Veyne que l'empereur reste un mandataire finalement pour assurer la protection de la Respublica, et que suivant les contextes, on peut le congédier finalement. Donc il y a tout cet arrière-plan là qui montre que finalement, au-delà des sources, on a toute une historiographie qu'on doit presque traiter, je dirais, comment on pourrait traiter les sources, tellement il y a de jeux d'échos, de contradictions, d'oppositions, qui rajoutent du brouillard au brouillard des sources parfois.
On a été très marqué quand même par la pensée de Ronald Syme et sa révolution romaine puissante, c'est-à-dire allant, forçant un peu le trait sur l'instrumentalisation faite par Auguste. Pourtant ça, c'est quand même vraiment dépassé, Jérôme Kennedy.
Ce qui est certain, c'est que la révolution romaine de Ronald Syme, ça reste un des monuments, finalement, un des incontournables vers lequel on se dirige quand on étudie la période. Ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que cet ouvrage, il sort en 1939. Il est publié en 1939. Dans le contexte, évidemment, qui est celui de la fin des années 30. Et dans la manière dont Syme a parfois tendance à définir les stratégies politiques qui peuvent être celles d'Octavien Auguste, on a parfois, on voit parfois davantage poindre les années 30 que l'Antiquité. Je pense qu'il y a parfois ce jeu de déformation qu'on a beaucoup conservé avec l'idée qu'on retrouvait, par exemple, dans le petit article de Claude Nicollet dans les années 60 dans l'Encyclopédia Universalis, où il expliquait qu'Auguste met en place un système finalement foncièrement hypocrite. Et donc cette lecture avec cette connotation, alors certes politique, mais aussi morale, de l'hypocrisie, elle a beaucoup marqué les études depuis ce moment-là.
Pendant longtemps, c'est ça qui est fort.
Finalement, jusqu'à aujourd'hui, même d'une certaine manière, on retrouve souvent ça dans les sources. On peut retrouver parfois cette logique-là, mais disons que c'est plus nuancé dans la formulation. Frédéric Hurlet a publié en 2015 une biographie d'Auguste qui était sous-titrée « Les ambiguïtés du pouvoir ». Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait écho à une image qu'on retrouve dans des sources plus tardives de l'empereur caméléon. C'est-à-dire, c'est pas foncièrement une démarche hypocrite, mais c'est l'idée, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, d'un individu qui a bénéficié d'un temps de pouvoir exceptionnel comparé à un nombre de ses congénères, et qui a su profiter des événements et des occasions pour construire un système politique. Auguste, on peut le considérer comme un animal politique au sens plein du terme, c'est-à-dire que il sait se saisir des occasions et des opportunités. Par exemple, lors des troubles électoraux qu'il peut y avoir à la fin des années 20, fin des années 10 avant notre ère, il profite de cette situation finalement pour pouvoir se présenter comme le pacificateur de la vie publique d'une certaine manière. Forcément, derrière ces stratégies, on peut toujours dire qu'il y a une forme de cynisme, c'est-à-dire que la démarche de politique, entre guillemets, politicienne, vise aussi des intérêts propres et des intérêts personnels. Donc, mais je pense que l'important, c'est vraiment de sortir de grilles de lecture morale.
Sur votre manière de faire, hein, votre méthodologie, évidemment, elle est, cette méthodologie, très tributaire des sources que vous allez malaxer. Alors, comment avez-vous procédé? Sur quelles sources vous êtes-vous fondé?
C'est la particularité, c'est à la, et la difficulté de l'histoire ancienne. On est tributaire du corpus qui est à notre disposition. Donc forcément, il y a parfois des pleins et il y a aussi des vides. Donc là, au niveau des sources, un des avantages de la période, c'est qu'on a un ensemble de corpus, d'abord littéraire, pour l'ensemble de la période. Alors, de manière inégale, évidemment, c'est-à-dire que, pour schématiser, dans l'ensemble des sources littéraires, on a évidemment le corpus cicéronien pour une partie du 1er siècle avant notre ère, le corpus sénéquien, donc Sénèque au 1er siècle de notre ère, et puis on a un ensemble d'auteurs qui permettent de saisir des nuances pour les autres périodes. Souvent, parfois, d'ailleurs, des auteurs qui ont longtemps pu être minorés. Si je prends l'exemple de Velleius Paterculus, donc qu'on présente souvent comme le laudateur de Tibère. Donc il écrit à l'époque de Tibère, successeur d'Auguste, souvent justement là, on a laissé de côté cette source pendant longtemps en disant bah voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Sauf que dans le détail, quand on prend les écrits de Velleius, quand on regarde les termes qu'il utilise, on voit certaines inflexions dans le sens des termes. Par exemple, je sais pas, si on prend le terme princeps, on voit qu'entre Cicéron d'un côté et Velleius et puis ensuite Sénèque et enfin Pline le Jeune à l'époque de Trajan, on voit des petits mouvements se mettre en place dans le sens des termes. Parce que ce qui est frappant, c'est que dans nos sources littéraires, on prend Cicéron, on prend Pline le Jeune, on retrouve quasiment les mêmes termes pour définir les mêmes choses, sauf que la manière dont les mots sont investis est complètement différente. Donc c'est à la fois l'avantage d'avoir les sources sur un panel chronologique large, et en même temps, voilà, la difficulté, c'est de faire attention à bien contextualiser ces sources et à essayer de comprendre les jeux d'écho dans l'utilisation des termes. Ça a été le gros morceau dans les sources et les sources littéraires, mais on a évidemment aussi d'autres éléments de documentation, les monnaies, la documentation numismatique, qui est importante pour essayer de comprendre, notamment à l'époque impériale, la nature du discours porté par le pouvoir. Évidemment, toujours avec la difficulté que mettre en série des pièces de monnaie, ça nous donne des indications, mais est-ce que ça nous donne un discours politique dans sa globalité? Bon, évidemment, là, je pense qu'il faut quand même nuancer. On a la documentation épigraphique, un certain nombre de grands textes, notamment toujours à l'époque de Tibère, le Senatus Consul concernant Pison Père, qui met en avant un certain nombre de termes ancrés dans le champ, j'allais dire, le champ émotionnel. Par exemple, la notion de caritas, par exemple, l'idée de définir et de mettre en avant un attachement à la famille impériale. Et puis enfin, dans les sources, on a, alors ce qui est absolument fondamental pour les Romains à l'époque, parce que c'est ce qui se voit en premier, la documentation, les sources monumentales, c'est-à-dire les constructions qui sont réalisées par telle ou telle figure, tel ou tel empereur, qui contribuent à monumentaliser les mutations politiques.
Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Jérôme Kennedy, professeur agrégé et docteur en histoire romaine. Jérôme Kennedy qui publie chez Champvallon un ouvrage intitulé « Une Respublica impériale en mutation, penser et pratiquer le pouvoir personnel à Rome, de Sylla à Trajan ». Alors, dans la deuxième partie de cet entretien, on peut revenir sur quelques aspects saillants de votre ouvrage, Jérôme Kennedy, en insistant notamment sur la première partie, hein, qui constitue, dites-vous, un préalable indispensable. S'interroger sur les mots du politique et les diverses perceptions et définitions de la Respublica est nécessaire. Il s'agit dans cette partie, dites-vous, de poser les bases, une civilium commutationum scientia, une science des mutations des régimes politiques, à la fois théorique et pratique. Évidemment, on retrouve la figure centrale, avec bonheur, il faut le dire, de Cicéron. Cicéron qui disait à un moment, dans ses lettres aux amis ou aux familiers, « Je désire l'honneur de César, je puis donner ma vie pour Pompée, pourtant rien ne m'est plus cher que la res publica. » Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ces quelques mots, Jérôme Kennedy.
Oui, il y a beaucoup de choses et souvent, alors à tort ou à raison, ça, chacun pourra trancher, on retient souvent la première partie. C'est-à-dire que d'un Cicéron, finalement, qu'on peut avoir tendance à définir comme opportuniste, très centré sur souvent sur lui. Et c'est vrai que quand on lit parfois certaines lettres, on peut avoir cette impression. C'est-à-dire que pour Cicéron, le moment de grand équilibre de la res publica correspond à son consulat. Bon, donc on a cet aspect-là. Mais quand on gratte un petit peu derrière, au-delà des aspects de la politique contingente et des alliances avec les uns et les autres, on retrouve finalement une cohérence. C'est-à-dire que il y a chez Cicéron une volonté de défendre une certaine idée de la res publica, de défendre sa res publica, sa conception de l'organisation et du fonctionnement de la cité de Rome. Donc ça a été finalement ce qui peut permettre de comprendre pourquoi il a des alliances politiques finalement assez variables. La difficulté, c'est que souvent, cette défense qu'il a voulu mettre en avant, en tout cas cette idée qui a été la pierre angulaire de sa réflexion, ça a toujours été un peu à contre-temps par rapport aux événements, et notamment par rapport à la montée en puissance de la violence, de l'antagonisme, pour le coup, qu'il n'a pas réussi à apprivoiser.
Son itinéraire politique est passionnant à suivre. Je rappelle pour nos auditeurs que Cicéron a vécu entre 106 et 43. Alors évidemment, l'approche du politique par Cicéron et dans le monde romain en général est influencée par la pensée grecque, vous le rappelez. Et vous faites la genèse de tout cela. Au cœur du champ politique, il y a un principe de mutation. Un principe de mutation qui s'inscrit dans le cadre de la théorie dite de l'anacyclose, attribuée traditionnellement à Platon. Vous le dites à un autre moment, la res publica romaine est un fonctionnement collectif très concret, le premier dans l'histoire, à pouvoir sortir du schéma de l'anacyclose. Donc il faut penser anacyclose et res publica, là, évidemment, ensemble, mais il faut d'abord évidemment expliquer les termes.
Au point de départ, il y a une contradiction. La contradiction, c'est qu'on a souvent tendance à penser les sociétés antiques, et en particulier Rome, comme, un monde de la tradition, le fameux mos maiorum, l'idée que les Romains n'aiment pas ce qui est nouveau, les Romains n'aiment pas ce qui change, et de sociétés voilà, qui sont fixes, fixistes, qui refusent le mouvement. Sauf qu'en réalité, dans les faits, et la période montre bien sur des courts, moyens et longs termes que c'est pas le cas, et puis surtout, c'est l'idée que dans la théorie politique même, le mouvement est considéré comme naturel et comme inéluctable. C'est-à-dire que la seule chose finalement qui est fixe et qui ne bouge jamais, c'est l'ordre du cosmos, c'est l'univers. Donc les systèmes politiques vivent et souvent ils peuvent être assimilés à des corps humains, à des systèmes biologiques. C'est-à-dire qu'un système naît, grandit, s'affaiblit, disparaît et puis alors, il est remplacé ensuite par autre chose. La théorie de l'anacyclose, pour le dire simplement, c'est un peu ce principe-là. C'est l'idée, alors qui remonte déjà, on en trouve des traces chez Hérodote, on en trouve des traces ensuite chez Platon, on trouve un développement autour de l'anacyclose chez Polybe au IIe siècle avant notre ère, quand il réfléchit justement sur qu'est-ce que ce système politique romain, et on sent qu'il est pas forcément, qu'il n'arrive pas forcément au bout de sa définition. Il y a des choses qu'il n'arrive pas forcément à percevoir, et on la retrouve enfin chez Cicéron. Donc cette théorie de l'anacyclose, c'est cette idée-là, l'idée que on a une succession naturelle immuable des systèmes politiques, de la monarchie à l'aristocratie à la démocratie. Suivant les auteurs, alors ça c'est intéressant, les termes peuvent être plus ou moins bien connotés. Par exemple, le terme de démocratie chez un Platon sera beaucoup plus péjoratif que chez Polybe, par exemple. Donc on a l'idée voilà de succession naturelle avec des formes de dégradation. Et un des éléments que développe en partie Polybe et que développe évidemment Cicéron, après on est toujours mieux servi par soi-même, c'est l'idée que le système politique romain, c'est un système qui permet de sortir de ce schéma. évidemment, il y a une part peut-être d'auto-valorisation hein, là-dedans, évidemment, mais c'est l'idée que dans la définition à la fois de Polybe et de Cicéron, cette fameuse res publica, c'est un mélange des différents systèmes politiques qui composent la théorie de l'anacyclose. Donc on a un système de nature monarchique avec les consuls, de nature aristocratique avec le Sénat et de nature démocratique avec le rôle du peuple. Évidemment, c'est très théorique et dans les faits, il y aurait beaucoup à dire sur cette conception. Mais en tout cas, ce que ça révèle, c'est que cette res publica romaine, en termes de définition, elle cadre difficilement avec les catégorisations politiques héritées de la pensée politique grecque. Et justement, tout l'intérêt, c'est qu'au 1er siècle avant notre ère, pour l'essentiel, il y a tout un effort de réflexion sur les termes, en particulier de la part de Cicéron. Après, évidemment, on a le biais de source, quand on a le corpus cicéronien qui occupe une place énorme, mais on a un effort comme ça de théorisation, de réflexion, pour trouver des termes afin de définir ce que c'est que cette res publica.
Res publica, revenons-y, c'est quand même une notion intrinsèquement polysémique, vous dites, pour laquelle, on l'a compris, il n'existe pas une définition unique, c'est d'autant plus complexe qu'elle n'est pas spécifique aux seules structures politiques romaines. Et qu'on utilise aussi d'autres notions pour évoquer l'organisation des communautés humaines. Donc là, on entre dans une complexité, ce qui fait que j'imagine beaucoup d'enseignants dans le secondaire se découragent lorsqu'il s'agit de tenter de proposer à des élèves une explication cohérente, pratique et peut-être un peu simple pour présenter cette res publica, Jérôme Kennedy.
C'est le problème, c'est-à-dire que res publica, ça fait partie de ces termes. Je pense à Barbara Cassin qui avait travaillé sur un dictionnaire des intraduisibles il y a de ça quelques temps. Res publica, c'est un intraduisible, par définition, par nature. Pour les Romains, c'est un terme qui peut être employé, je dirais, dans son entièreté, res publica, mais ça peut être employé avec d'autres termes. Donc il y a déjà cette difficulté. Mais surtout, res publica n'est pas spécifique à Rome. C'est un terme qui peut être employé, par exemple, pour parler de Sparte. Je crois que c'est chez Cicéron, il emploie le terme res publica pour parler de Sparte. Comme nous, on traduit toujours res publica par république, on imagine mal utiliser le terme république pour parler de Sparte aux élèves, par exemple. Ce serait assez compliqué. Donc, c'est un terme, je pense, dont il faut accepter que les traductions qu'on choisit, les analogies qu'on peut faire, forcément vont être réductrices. Le réflexe qu'on a, c'est souvent de dire res publica, ça veut dire république. Donc, ça veut dire que ça correspond, dans ce cas-là, traditionnellement, à la période qui va de 509 avant notre ère à 27 avant notre ère. Sauf que pour les Romains, res publica, ils l'emploient pour parler de la royauté, pour parler de ce qu'on appelle la République et pour parler de l'Empire. On trouve des sources tardives où on parle de res publica. On retrouve le terme de res publica, la restitution de la res publica, sur les arcs de triomphe du 4e siècle de notre ère à Rome. Donc, c'est commode de dire que res publica, ça veut dire république, ça permet de, j'irais peut-être d'incarner la notion, mais voilà, la notion par définition, elle a quelque chose de flottant et qui finalement tend plutôt à définir, alors, non pas tant vraiment la chose publique que ce qui est commun, l'être commun. Donc l'être commun, c'est à la fois un ensemble de pratiques, un ensemble de traditions, un ensemble de réflexes communs. C'est ce que l'on construit ensemble, c'est aussi ce que l'on peut parfois déconstruire ensemble. Donc il y a une part naturelle de flottement, parfois de confrontation, de jeu d'appropriation dans ce terme. C'est ce qui fait que quand on regarde les traductions, enfin je l'avais fait notamment en français et en anglais dans le livre, on retrouve traduit par constitution, par état, par pays, parfois par nation dans les vieilles traductions. Et finalement, si on voulait passer par notamment par l'anglais, souvent dans beaucoup de traductions, res publica, on traduit par state, alors qu'en réalité, le terme peut-être le plus proche, ça serait commonwealth. Mais forcément, si on opte pour ça, on est plus proche du sens romain, mais on entre dans quelque chose de beaucoup plus insaisissable.
Il faut probablement accepter la labilité du concept, enfin, c'est une forme de plasticité, je crois que c'est ça. Mais pour ça, pour l'accepter, il faut avoir beaucoup travaillé dessus. Hein. C'est évidemment le paradoxe. Alors, sur l'articulation qui est au cœur de votre travail entre le pouvoir personnel et puis la res publica, ça c'est passionnant. Quelle place le pouvoir personnel peut-il occuper dans un tel système, la République qui repose sur un ensemble d'habitudes devenues normes, la concurrence au sein de l'élite dirigeante et un rapport direct au populus, au peuple souverain? Alors pour le comprendre, il faut là aussi passer par un certain nombre de mots M-O-T-S, je veux dire, de mots qui sont importants, imperium, imperator, princeps, principatus. Et là, vous les suivez dans ce premier siècle, avant 27 avant Jésus-Christ. Ça, c'est intéressant de voir les évolutions sémantiques, de vous promener dans les textes avec cette loupe-là, en sachant que là aussi, on rentre dans une complexité. Je ne sais pas, je pense simplement à imperium. Là aussi, c'est un mot difficile à traduire.
Là encore, on a des jeux de contradictions et des problèmes, voire des impossibilités parfois de traduction. Alors d'abord, sur le rapport entre ce qu'on considère comme la République et le pouvoir personnel, on retrouve encore l'idée d'une contradiction. C'est-à-dire que la République romaine, traditionnellement, on l'a définie comme un système collégial, fondé notamment sur l'odium regni, la haine de la royauté, la haine du pouvoir royal depuis l'épisode légendaire de Tarquin le Superbe chassé en 509 avant notre ère. Voilà. Et ce système s'est fondé à partir de là sur la collégialité. Sauf qu'en réalité, ce qu'on observe quand on regarde par exemple les sources Aburbe Condita, qui racontent l'histoire de Rome depuis la fondation, c'est que cette histoire, elle est jalonnée de figures qui se détachent du collectif. La valorisation de ces figures, je sais pas, par exemple le dictateur Camille au 4e avant notre ère, etc. On a ces figures-là qui donnent corps, qui donnent chair et consistance à l'histoire de Rome. Cette contradiction, on la retrouve par exemple dans un des moments, les plus symboliques de mise en scène de la puissance romaine, la cérémonie du triomphe. La mise en scène du général vainqueur avec une procession jusqu'au Capitole. Donc le général vainqueur, l'impérator est mis en scène et valorisé, etc. Alors que dans les faits, alors ça c'est toujours la mise en scène qu'on a pu retenir évidemment, l'idée qu'on lui rappelle que finalement du Capitole à la Roche Tarpéienne, il y a très peu de distance et que le général, aussi grand vainqueur qu'il puisse être, n'est qu'un homme et le collectif, la cité de Rome, les Romains, peuvent, s'ils en ont la nécessité, le chasser, le sanctionner ou l'écarter définitivement de la cité. Donc il y a toujours cette ambivalence-là qu'on retrouve dans la République romaine, c'est-à-dire un système à la fois collectif, mais en même temps fondé sur des individualités. Et un des symboles de ça, c'est la magistrature de la dictature. Magistrature exceptionnelle accordée pour 6 mois à un individu dans une situation de crise, souvent de crise militaire. Donc ça montre bien que le pouvoir personnel n'est pas évacué, je dirais, de cette République romaine. Et c'est justement ce qui fait que les mots qui vont servir à définir le pouvoir impérial, que ce soit imperium, que ce soit princeps, principatus, ce sont des termes qui existent à l'époque républicaine, qui sont employés à la fois dans le champ politique, mais aussi dans le vocabulaire courant. L'imperium, ça peut être la puissance, ça peut être une puissance, la puissance d'une puissance étrangère. Même chose, le princeps, principatus, dans la guerre des Gaules de César, on retrouve parfois ces termes pour définir des alliés gaulois. Donc, on a ces termes-là qui ont une existence politique antérieure et qui peuvent être utilisés, là encore, pour des systèmes politiques qui ne sont pas romains.
Alors, si on revient à Cicéron lui-même, quelle est sa vision, cet équilibre entre res publica et pouvoir personnel? Vous parlez à un moment, vous parlez de res publica impériale conservatrice de Cicéron.
La particularité de Cicéron, c'est qu'il est actif, il joue un rôle politique de premier plan dans les années 60 avant notre ère en particulier, son consulat de 63 avant notre ère, qui est justement une période qui est marquée par la montée d'un ensemble de tensions, une montée progressive de la violence. Évidemment, son consulat est pour l'essentiel consacré à la gestion de la conjuration de Catilina, notamment. C'est une période où on a l'affirmation de la figure, par exemple, de Pompée, la figure de Crassus, César, enfin, qui est consul en 60 avant notre ère. Donc, il est immergé dans cette atmosphère où il voit nécessairement que le système politique qu'il défend, connaît une période pour le moins de turbulence. Donc il y a tout cet arrière-plan-là. Alors Cicéron fournit un effort de théorisation par la suite, plutôt vers la fin de sa carrière, dans les années 50 avant notre ère, c'est-à-dire une époque où il est beaucoup plus en marge. Après son consulat de 63, il sera exilé assez peu de temps, mais en 58, notamment sur instigation de son ennemi Claudius, qui lui a reproché, alors pour le coup à juste titre, d'avoir fait condamner à mort des citoyens romains sans qu'il n'ait pu avoir de jugement dans le cadre de la conjuration de Catilina. D'ailleurs, par parenthèse, c'est intéressant, c'est-à-dire que Cicéron, qui défend une certaine idée de l'ordre et du légalisme, qui a pris une décision qui finalement est en dehors de ça. Donc, lui-même est pris dans ses jeux de contradictions. Et donc, au retour de son exil, il est plus en retrait et il va en profiter, notamment entre 54 et 52 avant notre ère, pour réfléchir sur comment théoriser cette fameuse Respublica. Et c'est là où il écrit deux des traités les plus célèbres qu'on connaît de lui, le De Republica, c'est-à-dire le traité sur la République, et le De Legibus, le traité des lois. Alors le premier, le traité sur la République, sur la Respublica, malheureusement il nous manque les deux derniers livres, là où il développe justement la figure de l'optimus civis du bon citoyen, donc c'est évidemment très frustrant. Voilà, c'est vraiment dans ces deux ouvrages qui fonctionnent vraiment en jeu de miroir, hein, qui sont vraiment complémentaires l'un et l'autre, et dans ces livres il définit d'abord le meilleur des systèmes politiques, l'optimus status. Évidemment, le meilleur des systèmes politiques est très étonnamment, en réalité pas du tout, très proche de ce qu'est la Respublica traditionnelle romaine, c'est-à-dire avec les magistratures classiques romaines telles que fixées en 180 avant notre ère, le rôle du Sénat, le rôle du peuple qui est très 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 encadré, le peuple finalement apparaît de manière plus secondaire dans la pensée cicéronienne. Donc c'est une pensée qui donne le primat à une Respublica sénatoriale. C'est en ce sens qu'on peut parler de Respublica conservatrice. Donc on a cet effort de définition du meilleur des systèmes politiques, à l'intérieur duquel il essaie de définir ce que c'est que l'optimus civis, le meilleur citoyen. Et le problème, ou la difficulté pour lui, c'est que là, il joue un jeu d'équilibriste. Ce meilleur des citoyens, il le définit comme une figure tutélaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu un passé, qui a joué un rôle important, etc., mais qui ne détient plus de magistrature, qui n'a pas de pouvoir militaire, et qu'on vient chercher pour aider la cité, pour aider la Respublica. Sauf qu'évidemment, quand on écrit ça dans le contexte des années 50 avant notre ère, il y a un décalage terrible entre cette théorisation et, par exemple, 52 avant notre ère, c'est le consulat unique de Pompée. Cette volonté de préserver la Respublica traditionnelle dans un contexte où on a une dérégulation du système politique, finalement, c'est pas tenable.
Il nous reste plus beaucoup de temps pour parcourir les évolutions chronologiques que vous proposez dans votre deuxième et votre troisième partie. On peut peut-être revenir sur deux ou trois moments clés. En commençant peut-être par l'expérience sylanienne, Sylla, dictateur entre 82 et 81 avant notre ère, et ses effets. Vous dites que l'éphémère Respublica impériale sylanienne provoque un profond traumatisme qui est quand même structurant pour les décennies qui suivent. Expliquez-nous peut-être en quelques mots, Jérôme Kennedy.
La particularité de Sylla, c'est que la dictature qu'il obtient, finalement, c'est presque, pour le dire de manière très schématique et directe, c'est presque une carte blanche pour rétablir la Respublica. Dans un sens, là aussi, d'une Respublica sénatoriale. On a tout l'arrière-plan, évidemment, des confrontations, notamment sur les lois agraires, etc., évidemment, mais ça a été vraiment l'idée de donner ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de plein pouvoir à un individu pour parvenir à cette fin. Donc le Sénat, d'une certaine manière, a généré une forme, alors certes provisoire, et d'ailleurs c'est une des interrogations que j'aborde rapidement, c'est pourquoi finalement Sylla se retire du pouvoir alors qu'il a tout entre les mains. Et donc là, voilà, il y a un pas de côté qui est réalisé sur le plan à la fois institutionnel et en termes également de, je dirais, d'équilibre et de perception politique. Et surtout, ce qui est associé à Sylla, au-delà de son œuvre, je dirais, politique en tant que dictateur, c'est la question des proscriptions. Alors, François Hinard, il y a déjà peut-être 20 ans, a expliqué que ces proscriptions, contrairement à celles qui suivront, ont reposé sur un effort de légalisation, sont des proscriptions qui ont été finalement assez contrôlées et encadrées. Mais la particularité, c'est que les descendants des proscrits ont subi une peine, notamment la peine liée à la privation de la citoyenneté. C'est-à-dire que là, il y a une entaille profonde dans ce qui fait la définition de l'être commun. On exclut des citoyens en raison, finalement, de leurs ascendants. Donc ça crée à la fois un traumatisme diffus, de long terme, et ça génère petit à petit des formes non plus de confrontation politique au sens institutionnel et social du terme, mais des confrontations de plus en plus directes, physiques, et des formes d'antagonisme.
Alors, c'est passionnant ce que vous montrez, la brutalisation de la Respublica au 1er siècle avant notre ère, vraiment dans ce temps majeur de recomposition du rapport au pouvoir personnel avec Pompée. Et puis, à partir de 49 avant notre ère, César, la suite, etc. Revenons quand même dans un deuxième temps de notre dernière fenêtre sur votre ouvrage, si j'ose dire, sur ce novus status augustéen, un système, dites-vous, qui n'a pas su muer en régime. La légitimité d'Auguste repose sur une auctoritas personnelle, par nature intransmissible. Alors là, pour des béotiens comme moi, ça paraît contre-intuitif. On a l'impression que Auguste installait quelque chose amené à perdurer, mais là encore, il faut aller contre nos a priori.
Dans ce qu'on peut nous enseigner, dans ce qu'on peut lire, finalement, c'est l'idée que Auguste fonde un régime amené à durer pendant 2 siècles, ce qu'on appelle la Pax Romana. Point, il se passe plus rien. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les empereurs qui succèdent assez rapidement, notamment Tibère, on voit des contre-modèles parfois, notamment Tibère. Alors, la relation entre Auguste et Tibère était très compliquée. Mais dans la pratique, la conception du pouvoir, on voit des approches et des conceptions différentes. Et donc la question que je me suis posée, c'est pourquoi on a autant de flottements dans la pratique et la conception du pouvoir impérial à Rome au premier de notre ère, si Auguste a fondé un régime. Parce que ça va bien au-delà simplement de l'adaptation. C'est-à-dire, le nouvel empereur veut faire quelque chose de différent. Bon, ça va beaucoup plus loin que ça. L'idée, qui, notamment, m'a été, en partie soufflée par Harriet Flower au moment de la soutenance de la thèse, c'est que Auguste a construit un système institutionnel. Je prends plusieurs exemples, de manière progressive, la préfecture de la ville, etc. Donc, on a un système à Rome, en Italie, dans le monde romain, qui permet de gagner en efficacité, en cohérence. Et ce système-là, il est une base qui survit d'un empereur à l'autre. Et effectivement, ce qui se diffuse et se transmet, c'est ça. En revanche, ce qu'Auguste n'a pas réussi à faire, c'est à transmettre ce qui est le fondement d'un régime, notamment de nature monarchique. Un auteur comme Cassius Dion, au début du IIIe siècle, explique qu'Auguste fonde une monarchie, point, et c'est terminé. Ce qui manque, c'est cette autorité transmissible. C'est-à-dire que l'autorité d'Auguste, c'est son autorité personnelle, en tant qu'individu, qu'il a essayé de transmettre au tournant de notre ère à Caius et Lucius, qui, manque de chance, sont morts jeunes, et les choses et les relations humaines sont ainsi faites qu'il n'a pas souhaité rééditer l'expérience avec Tibère. Et donc, finalement, cette autorité, cette auctoritas, elle disparaît avec Auguste. Et donc, d'une certaine manière, ça condamne les empereurs suivants à la fois à composer avec le modèle augustéen, mais à construire leur propre légitimité. Ce qui explique certains éléments de fragilisation finalement assez rapide. Moins de 30 ans après la mort d'Auguste, on assassine Caligula. Donc ça montre bien que l'empereur auréolé de son auctoritas, etc., très vite, cette image-là, cette logique-là, ne survit pas très longtemps à Auguste.
Et vous dites que la Res Publica s'oriente peu à peu vers une conception royale plus explicite, soit une définition, vous dites, au fond, plus simple et classique du pouvoir personnel. Cette mutation s'opère très progressivement entre le Principat de Claude, donc entre 41 et 54, et l'avènement de Trajan, mais avec aussi des allers-retours. On pense à Néron, Domitien, qui deviennent les mali principes, les mauvais empereurs. Donc là encore, pas de linéarité.
Non, il n'y a pas de linéarité. C'est-à-dire que la période qui s'ouvre à partir de Claude, il faut avoir en tête le contexte de l'avènement de Claude. Évidemment, hors Claude, on a souvent une image négative de cet empereur, qui en réalité a consolider certaines pratiques administratives et à essayer de renouveler le discours impérial. Mais il accède au pouvoir après la mort de Caligula, l'assassinat de Caligula. Donc là, en termes de légitimité, tout est à construire, mais encore plus que pour ses deux prédécesseurs, Tibère et Caligula. Donc, il y a, de la part de Claude, des mutations administratives, institutionnelles. Assez rapidement, après son avènement, il lance ça a pris beaucoup de temps, mais la conquête de la Bretagne pour lui permettre de triompher, là aussi pour essayer de régénérer un discours impérial dans un contexte qui a parfois été qualifié dans l'historiographie de période de crise de l'autorité, justement. Donc on a ces premières inflexions. Et ce qui est intéressant, c'est que la période qui va de Claude à Néron, c'est une période qui est marquée par un retour, d'une certaine manière, aux conceptualisations plus classiques du pouvoir personnel qu'on trouve notamment chez Sénèque, notamment dans le traité sur la clémence qu'il écrit pour le tout jeune Néron. Il a participé à l'éducation de Néron et donc il veut lui donner un petit peu un guide de ce que c'est qu'un bon empereur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de son discours, c'est de dire l'empereur peut faire ce qu'il veut, conception classique, presque hellénistique du pouvoir impérial, il a le droit de mort, le jus gladii, etc. Mais évidemment, ce qui permet de tempérer ça, c'est la clémence. Et il met en avant cette notion-là, donc après on a tout un développement très stoïcien de la part de Sénèque, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour redonner une légitimité, une autorité, ou une prééminence peut-être, au pouvoir impérial, Sénèque renoue avec des traditions philosophiques et politiques qui sont antérieures à Auguste. Et d'une certaine manière, la définition du pouvoir personnel fait une révolution au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on finit par revenir au point de départ, dont Cicéron et Auguste, par exemple, se sont éloignés, et on revient à ce qui crée des grilles de lecture beaucoup plus schématiques, qui donnent notamment les bons et les mauvais empereurs.
Alors, terminons peut-être cet entretien en disant, car les auditeurs ne l'auraient pas compris, que la res publica impériale, elle doit être pensée dans un cadre spatial mouvant, celui de la conquête aussi, évidemment, des premiers siècles avant et après notre ère, Jérôme Kennedy.
Ce qui est certain, c'est que cette res publica impériale, on l'a beaucoup abordé à l'échelle des figures, à l'échelle de Rome, mais fondamentalement, ce qui fait que ce concept a pu être créé, et à l'origine, certains historiens ont pu employer l'expression république impériale, c'est justement pour évoquer la logique des conquêtes. L'idée d'une cité qui s'étend à une échelle qui ne correspond absolument pas au fonctionnement de la dite cité. Donc on a évidemment ce jeu d'échelle qui est toujours déjà présent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les modalités du discours politique, qu'on peut voir à travers les monnaies, évidemment, quand on pense à la reine des inscriptions, les res gestae divi Augusti, les hauts faits du divin Auguste, quand on compare le vocabulaire latin et le vocabulaire grec, on voit qu'on a affaire à deux formulations qui sont complémentaires mais qui ne sont pas identiques. Alors, non pas par pur cynisme, mais sans doute parce que dans la partie orientale de l'Empire, il y a certaines subtilités romaines, latines, qui créeraient plus de confusion qu'autre chose pour des territoires habitués à une pratique de la monarchie hellénistique, par exemple. Donc, on retrouve, y compris à une échelle beaucoup plus large, cette idée d'une forme de pragmatisme et d'adaptation.
Pragmatisme et adaptation, ce seront les mots de la conclusion. Merci beaucoup, Jérôme Kennedy. Et c'est ainsi que se termine le 158e numéro de nos chemins d'histoire, le 38e de la 4e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Jérôme Kennedy, agrégé et docteur en histoire romaine. Jérôme Kennedy qui publie chez Champvallon un ouvrage passionnant intitulé « Une res publica impériale en mutation, penser et pratiquer le pouvoir personnel à Rome de Sylla à Trajan ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. À très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.